Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous parlons de priorité. Au psaume 4, David exprime le désir du plus grand nombre. Je cite « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ? Trouver le bonheur, être heureux, n'est-ce pas une aspiration prioritaire et légitime pour les humains ? Certainement. Je vous propose quelques pistes de réflexion et ensuite, à chacun de vous de poser ses priorités. Pour certains, leur priorité vient d'une vision à court terme, avec la recherche qui en découle, à savoir la satisfaction, entre guillemets, du ventre. Un dicton bien connu, je cite, « Mangeons et buvons car demain nous mourrons » a été mentionné par le prophète Ésaïe et repris par l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il met le focus sur la priorité à court terme, celle de l'instant présent. Et peu importe de quoi demain sera fait, vogue la galère. Par ailleurs, Paul désigne une certaine catégorie d'individus par ces termes, je cite, « Ils ont pour Dieu leur ventre. Tout est centré sur eux-mêmes. » Lors de mes années lycée, un professeur de français nous a dit, je cite, « L'homme est un tuyau qui se remplit par le haut et qui se vide par le bas. Que nenni, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. » Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. L'être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, a des besoins et des aspirations légitimes pour chacune de ses composantes. Tout comme le corps a ses besoins, l'âme aussi a ses besoins, et l'esprit a également les siens. Pourquoi donc certains poursuivent-ils le bonheur comme un mirage, comme si le bonheur était toujours plus loin et finalement inaccessible ? Trois proverbes de l'Écriture soulignent la même chose. Je lis Proverbes chapitre 15 verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Proverbes chapitre 16 verset 8. Mieux vaut peu honnêtement gagné que de grands revenus acquis injustement. Proverbes 17 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Le simple fait de posséder un trésor, d'avoir à disposition de grands revenus ou une table bien garnie, ne suffit pas à rendre heureux. Pas plus d'ailleurs, soulignons-le, le fait de se priver de tout et de vivre en vagabond. L'humain est heureux quand son cœur est en paix et qu'il se satisfait de ce qu'il a. Connaissez-vous monsieur l'insatisfait ? Il met une demi-heure pour se rendre à pied à son travail et de soupirer. Ah, si j'avais un vélo ! Le voilà maintenant sur son vélo. Et parce qu'il peine à monter la côte, il soupire à nouveau. Ah, si seulement il y avait un moteur ! Et lorsque, roulant fièrement avec son vélo moteur, il se fait tremper par une averse inopinée, il soupire après un toit, c'est-à-dire après une voiture. Mais retrouvons-le, ce monsieur l'insatisfait, au volant d'une voiture coincé dans un embouteillage. Et là, il se dit « Ah si seulement, j'étais à pied !» Le bonheur est un état de contentement du cœur, une disposition du cœur qui respire la paix. Une disposition, disons, intérieure, qui ne dépend pas des conditions extérieures, disons, de la pluie ou du beau temps. Bien-aimés, posons-nous la question, comment peut-on chanter les louanges de Dieu alors que l'on est injustement emprisonné et avoir subi des sévices corporels très douloureux? L'Écriture nous relate cette situation dans le livre des Actes des Apôtres. En effet, Paul et Silas arrivent dans la ville de Philippe, située dans le premier district de Macédoine et colonie romaine. Et là, croisant la route d'une femme ayant en elle un esprit de divination, Paul la délivre en ces termes, je cite, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Avant de considérer les événements qui se sont enchaînés et déchaînés contre les apôtres à partir de cette délivrance, soulignons ceci. Nous n'avons pas de précision sur la vie de cette femme, mais l'Écriture est claire à ce sujet. Asservie et dépendante de cet esprit mauvais, la pauvre servante ne pouvait en aucun cas mener une vie normale et heureuse. Ce sujet a été abordé en 2015, mardi à 10h, sous le titre « Occultisme ». Je vous rappelle, bien-aimés, que ce message est disponible sur notre site internet, rubrique « Texte-message », et l'écoute en replay est également possible. Voici ce qui a suivi l'intervention de Paul. Je lis Actes, chapitre 16, versets 19 et suivant, Bible français courant. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison, et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Oui, malgré leur grande souffrance physique et morale, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Alléluia ! Comment peut-on chanter dans la douleur ? Cela vient du ciel. C'est surnaturel, c'est le fait de Dieu. Le jeune Élihu le rappelle à Job et à ses trois amis. Je le cite. « Dieu inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. » Et Paul, encourageant les Philippiens à prier Dieu, avec un cœur reconnaissant, évoque, je cite, « la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. » C'est le lot de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Bien-aimé, es-tu de ce nombre ? Dans la prison, Paul et Silas étaient heureux. Heureux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Les prisonniers les ont entendus chanter. Ils n'ont pas été les seuls. Le geôlier les a aussi entendus exprimer leur joie et leur foi. Aussi, quand ils se retrouvent à leurs pieds, ils les interrogent par ces paroles. « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» En clair, cela signifie « Que dois-je faire pour être comme vous ?» Réponse claire et simple. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Nous écoutons une page musicale.
sur la terre. On ne sait rien de la misère. Et on a tous dans le cœur le goût du bonheur. On voudrait conquérir le monde. Et même si le tonnerre gronde, on est bien déterminé à gagner.
On s'en va avec des promesses.
On a beau dire, on a beau faire, la vie n'est pas drôle sur terre. Quand un problème est fini, un autre surgit. Peu de joie, beaucoup de tristesse, déception encore et sans cesse. On a peur du lendemain, quel destin.
Quelle priorité avons-nous donné à notre vie? Quel but poursuivons-nous? Est-ce la richesse? Attention à ne pas se faire piéger par les jeux de hasard qui enrichissent avec démesure les organisateurs de ces jeux au détriment des joueurs. Est-ce la gloire? Attention, car souvent, c'est au prix de leur dignité et de leur liberté que certains ont fait le choix de se mettre sous un joug cruel et inflexible, simplement pour être une star, sous les feux des projecteurs. En vérité, derrière cette recherche de la richesse ou de la gloire, n'y a-t-il pas la soif d'être heureux? La vérité vraie, comme dit un ami, la priorité pour l'humain, c'est de trouver le bonheur. Voici ce que dit le roi David lorsqu'il a eu souffert d'actions violentes menées par des gens malfaisants. Je lis psaume 94, versets 17 à 19. « Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. Chaque fois que j'ai dit, je ne tiens plus debout, ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé. Tu m'as rendu la joie. » La joie de David est associée à la consolation. En vérité, l'humain a plus besoin de réconfort que de distraction. Il y a entre le réconfort et la distraction une différence considérable. La distraction détourne, pour un temps, votre attention du problème qui vous préoccupe ou vous accable. Mais lorsque la distraction, et il en est de nombreuses qui ne sont pas malsaines, lorsque c'est terminé, alors le problème, toujours présent, est plus lourd encore. Le réconfort, c'est ce qui redonne de la force. Le réconfort est donc ce qui va engendrer ou renouveler en vous la force morale qui rend capable de surmonter le problème ou d'en trouver la solution. La distraction est un calmant provisoire. Le réconfort est le remède qui fait surmonter le mal. Nous avons évoqué en commençant cette émission la vision à court terme de certains avec la recherche qui en découle, à savoir la satisfaction du ventre. Puis nous avons précisé ceci. Le bonheur est un état de contentement du cœur, une disposition du cœur qui respire la paix, une disposition, disons, intérieure, qui ne dépend pas des conditions extérieures, disons de la pluie ou du beau temps. Le cœur est apaisé par la présence de Dieu, rassuré dans l'épreuve traversée. Voici ce que dit le Seigneur au chapitre 43 du prophète Ésaïe. Je cite « Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Quand avec Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, pas un seul ne s'est noyé. Quand les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ces trois hommes sont sortis de la fournaise dans laquelle ils ont été jetés sur ordre de Nebuchadnezzar, ces hommes ne sentaient même pas le roussi. Alléluia ! Dans le domaine de l'écologie, on met en avant une notion nouvelle, le développement durable. Aussi, je dirais ceci, la priorité pour connaître le bonheur durable, c'est ceci. Nous avons besoin, impérativement, d'avoir Dieu avec nous. Comparons maintenant deux hommes, Asaph et Salomon. Leur perception du bonheur se trouvera diamétralement opposée à la fin de leur vie. Constat, l'un s'est rapproché davantage du Seigneur et l'autre s'en est éloigné. Voici ce que dit le roi Salomon. Je lis Ecclésiaste, chapitre 2, verset 10. « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite du vent. Ce sont là les paroles d'un homme désabusé. Et pourtant, Salomon avait été comblé par Dieu. Rappelons que lorsque Salomon était devenu roi, il est écrit à son sujet, 1 roi chapitre 3 verset 3, « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Et lorsque Salomon a offert 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon, Dieu lui est apparu en songe pendant la nuit et lui a dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. Bien-aimé, vous, qu'auriez-vous répondu ?» Voici ce que Salomon a répondu. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait diriger ton peuple, ce peuple si nombreux ? » Cette demande de Salomon a plu au Seigneur, qui lui a répondu, je cite, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. » Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Cependant, Salomon a non seulement épousé la fille du roi d'Égypte, mais encore, il a épousé aussi beaucoup d'autres étrangères, enfreignant de ce fait les instructions divines. Et quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'ont entraîné à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il a cessé d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Cœur partagé, insatisfaction assurée. Salomon est désabusé. Rien ne le comble. Pauvre Salomon, malgré sa sagesse, en se détournant de la communion avec Dieu, il passe à côté de l'essentiel, le bonheur. Asaph, moins connu que Salomon, va progresser dans sa quête du bonheur. Musicien, prophète et responsable du groupe des Lévites, chargé par le roi David de célébrer les louanges du Dieu d'Israël. Au psaume 73, il nous ouvre son cœur et dévoile le combat intérieur qui, un temps, l'a agité. Car Asaph endure de douloureuses épreuves. Nous en ignorons le détail. Toutefois, la chose est allée jusqu'au point, avoué par Asaph, où il a failli se détourner de sa foi et rejeter Dieu. Car ce qui a augmenté son combat intérieur, c'est le fait qu'autour de lui, des mécréants avérés, arrogants et violents, prospèrent et ne connaissent aucun problème de santé. Asaph rumine et s'auto-interroge. Mais à quoi cela sert-il d'être honnête et pieux? Il est même tenté de les envier, de copier leur conduite. Dans son cœur, il y a un grand combat, car il a conscience qu'un tel comportement serait comme une véritable trahison. Grosse difficulté pour lui jusqu'au jour où, je le cite, « jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. » Les yeux d'Asaph s'ouvrent, renversement complet des choses. Et voici en quels termes il s'adresse au Seigneur, je cite, « quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide. Je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. » Et Asaph fait le constat suivant, je cite, « cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. » Le sort final des mécréants et celui des croyants n'est pas le même. Jésus l'a souligné. Je cite Matthieu chapitre 25, verset 46. « Les mécréants iront au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Ce qui a rempli de joie le cœur d'Asaph, c'est de considérer le plus que constitue la présence de Dieu pour le temps présent et l'espérance de la gloire pour le temps à venir. Et sa résolution est, comme on dit, sans appel. Je cite, « mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon bien précieux. » Écoutons une nouvelle page musicale.
1, 2, 3, 4.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours.
Le roi David a souligné que sa joie était associé à la consolation. Rappel du psaume 94, verset 19. « Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. » Le bonheur est un état de contentement du cœur, une disposition du cœur qui respire la paix, une disposition, disons, intérieure, qui ne dépend pas des conditions extérieures, disons, de la pluie ou du beau temps. Le cœur est apaisé par la présence de Dieu. Quand cette présence n'est pas ou n'est plus là, il ne peut y avoir de bonheur durable. Lorsque David a convoité et pris la femme d'Uri le Héthien, un de ses vaillants hommes, David a perdu la joie qui était dans son cœur. Au psaume 51, David exprime sa repentance et au verset 14, sa prière est « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le Seigneur pardonne celui qui se repent, qui avoue et délaisse ses transgressions. » David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres, en ces termes, je cite, « Heureux, celui dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Le bonheur se conjugue avec la paix et l'amour. Une fillette a été placée dans une famille d'accueil suite à de graves violences subies dans sa famille de naissance. En voyant la magnifique chambre remplie de jouets qui l'attendait, elle a eu ces mots, je cite, « Est-ce qu'il y aura ici quelqu'un pour m'aimer ?» Bien-aimé, toi qui es du nombre des déshérités de la vie et qui dis « Personne ne m'aime », écoute ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous pécheurs, pour toi et pour moi, que Christ est mort et ressuscité. En lui, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas seulement une vie à venir, c'est dès à présent une qualité de vie dans laquelle nous nous sentons aimés du Père céleste, que nous aimons en retour. C'est la vision du bonheur à long terme. Jésus a souligné cela avec cette question, je cite, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ou « Que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Dans son service apostolique, Paul a connu toutes sortes de situations. Je cite, « Fréquemment emprisonné, souvent frappé, de la part des Juifs, 5 fois la série de 39 coups, et de la part des Romains, 3 fois battu à coups de fouet, et 1 fois blessé par jet de pierre. Et outre les divers dangers auxquels il a été exposé, il a enduré de dures épreuves, souvent privé de sommeil, exposé à la faim et à la soif, au froid et au manque de vêtements. Au terme de sa vie, voici ce que Paul écrit à Timothée. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Quel contraste avec les propos de Salomon. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Voilà, entre autres paroles, ce que Paul a écrit aux chrétiens de Rome. Bien-aimés, si cela n'est pas déjà fait, il est temps pour toi, aujourd'hui, de faire le choix du bonheur. Quelle priorité as-tu choisi? Es-tu réconcilié avec Dieu? As-tu fait la paix avec lui? Par une simple prière, tu peux donner à ta vie une nouvelle orientation. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mon péché. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie. Que ma vie soit tout entière à toi. À ton nom, Seigneur, je donne toute la gloire. Amen.